Donc, je ne devais pas être ici ce matin. Quand j'ai enseigné il y a deux semaines, j'avais dit que je vais continuer mon message sur « Cherchons la face de Dieu ». Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint? C'est ça. Donc, on devait la continuer au mois de mai. Sauf que ça faisait loin un peu, puis mon frère Justin Aubut m'a offert de le remplacer aujourd'hui pour... lui, il va me remplacer au mois de mai. Donc, on a changé de date. Donc, je le remercie beaucoup pour ça. Et on n'est pas encore le mois de mai. Il y a encore un peu de neige qui est tombé en fin de semaine. Donc, il ne faut pas s'y méprendre. Donc, c'est le troisième message sur le sujet. Il devait y en avoir deux, mais la dernière fois, j'ai pris une demi-heure pour parler d'autre chose. Donc, troisième message là-dessus, vous devez dire, Yvan, wow, t'es un pro, toi, dans la recherche de Dieu. Il me semble que t'insistes beaucoup là-dessus. Tu mets beaucoup d'énergie. Et oui, vous avez raison. J'aimerais dire ça, mais c'est pas vrai. Je ne suis pas un pro dans la recherche de Dieu, mais je sais que c'est une chose qui est super importante. Et je ne veux pas que vous pensiez que je suis un super spirituel pour cela. Parce que je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Mais tout ce que je veux faire, c'est vous partager mes réflexions, les choses que Dieu me montre, qui m'aident à le découvrir et à le chercher davantage, et qui me motivent à continuer à le chercher. Et ce que je vais vous enseigner ce matin, je l'enseigne aussi pour moi. Et ma prière, c'est que je puisse vous aider aussi à chercher davantage la face de Dieu. Et il y a une citation que je vais vous donner, c'est un monsieur George MacDonald. C'est un écrivain pasteur né dans les années en 1824, décédé au début de l'année 2000, des années 1900 en Écosse. Et lui, un jour, ce pasteur-là, il a commencé son sermon comme suit. Je vais mettre sa citation. Ce George MacDonald, il dit « Si j'arrive pas à vous convaincre de chercher à connaître un peu plus Jésus-Christ, j'aurai perdu mon temps en venant devant vous. » En venant à vous. Donc, si je viens pour prêcher, puis je peux pas vous convaincre de chercher à connaître plus Christ, je suis venu pour rien. Et il ajoute dans sa deuxième phrase, si je ne parviens pas à aider un seul humain à se rapprocher de Dieu, du Dieu vivant, mon travail aura été vain. Donc, lorsqu'on vient ici, le dimanche matin, dimanche après dimanche, c'est pas parce qu'il y a un horaire ou parce que c'est une routine que le dimanche matin, vous prêchez. C'est parce que c'est primordial que tous ensemble, on se rapproche de Dieu, qu'on le connaisse davantage. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais dit mon message est divisé en quatre questions. Nous avons regardé qui doit chercher la face de Dieu, quand on doit chercher la face de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir comment chercher la face de Dieu et pourquoi. Et qui doit chercher la face de Dieu? On avait vu que c'était tous les hommes, toutes les femmes devaient chercher Dieu. Premièrement, ceux qui n'étaient pas sauvés parce qu'ils avaient besoin de connaître Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et le croyant doit continuer à chercher Dieu pour le connaître davantage, comme un enfant veut connaître son père, veut avoir une relation avec lui. La deuxième question, quand doit-on chercher Dieu? C'est maintenant, tout de suite, ça presse. Donc, pas attendre d'être assez bon ou assez spirituel pour me rapprocher de Dieu, parce que Jésus est venu justement pour ça, parce que je n'étais pas assez bon ou assez spirituel pour aller à lui. Et pas attendre que j'ai plus de problèmes qui vont m'occuper, me préoccuper. Non, aller à Jésus avec mes problèmes, lui capable de m'aider à porter mes fardeaux. Et ce matin, on répond aux deux autres questions. Pourquoi chercher Dieu et comment? Et le verset que j'avais apporté, je vous relis. Psaume 63, versets 1 et 2, psaume de David. Et on sait que David est un homme selon le cœur de Dieu, c'est inspiré de l'Esprit. Donc, on voit que David, ici, lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Donc, David connaissait Dieu, il était rempli de l'Esprit, mais il continuait à le chercher, il voulait le connaître davantage. « Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. » Et une âme qui a soif, donc, elle n'avait pas soif d'eau, elle avait soif d'eau liquide, mais c'était l'eau qui venait du ciel, l'eau de vie qu'elle avait besoin. Vous voulez, on va aller prier avant d'aller plus loin. Notre grand Dieu, je te prie que ce matin, tu nous aides à nous rapprocher de toi, tu nous aides à te connaître davantage. Et Seigneur, tu nous as sauvés et la vie éternelle, c'est de te connaître, mais Après qu'on est sauvé, Seigneur, tu veux qu'on se rapproche de toi, qu'on soit toujours près de toi. Seigneur, la vraie vie, c'est en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul disait, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ, ma vie t'appartient. Et c'est ta vie qui doit couler en nous, Seigneur. Notre Dieu, on veut te connaître davantage pour expérimenter vraiment cette nouvelle vie et te connaître comme personne, Seigneur, réelle, qui existe et qui désire d'être rencontré, d'être connu et d'avoir une relation intime avec ses enfants. Et on te demande, Seigneur, de me diriger, là, ton serviteur faillible, afin que ce ne soit pas moi, Seigneur, qui, par mes propres efforts, réussisse à convaincre mes frères et sœurs, mais que ce soit ton esprit, Seigneur, qui convainque les cœurs de l'importance de te chercher, de te connaître davantage. On prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, pourquoi devons-nous chercher la face de Dieu? Un verset 5 qu'on a mis la dernière fois, parce que Dieu le demande. Donc, recherchez l'Éternel, sa force, cherchez continuellement sa face. Cherchez, donc il nous exhorte ici, il nous ordonne même de chercher continuellement sa face. C'est pas évident, chercher continuellement. Donc, je crois que ça devrait être notre attitude de toujours vouloir le chercher et le connaître davantage. Donc, chercher continuellement sa face. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament aussi, il y avait le verset, tu aimeras le premier commandement, Seigneur ton Dieu, de ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. Et lorsqu'on a demandé à Jésus, c'était quoi le plus grand commandement? Ben, Jésus, il a dit ça. Donc, c'est une recherche de Dieu. Si on aime Dieu, on va le rechercher. Donc, Jésus a dit dans Luc chapitre 10, verset 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Donc, Jésus le demande de le chercher de toute notre force, tout notre cœur. Donc, s'il nous demande de l'aimer comme ça, ça implique qu'on doit le chercher. Parce que quand on aime quelqu'un, on cherche, on veut le connaître, on veut être dans sa présence, le plus près de lui. Et naturellement, ça devrait être pour nous facile de toujours essayer de connaître Dieu davantage, parce que Dieu est tellement merveilleux. Dieu, il nous a créés, Dieu fait tellement de choses, donc c'est un être merveilleux. Et la louange et l'adoration, ça devrait être ce qu'il y a de plus naturel chez l'enfant de Dieu. Et plus on se rapproche de lui, plus la louange et l'adoration deviennent naturelles. Je donne un exemple. Supposément, une jeune fille qui doit se fiancer dans 2 semaines, qui est fiancée, qui doit se marier. Et quelqu'un lui dit, « Wow, je vais être à ta place, tu dois être contente, tu sais. » Ouais. Ben, tu vas être contente, tu vas te marier, puis tu es fiancée, puis ça fait longtemps que tu voulais te marier. Ouais. Dans 2 semaines. Puis, tu n'as pas hâte de le voir, là. Ben, on va être toute la vie ensemble, tu sais, quand même. Pas besoin d'être si contente que ça. Tu sais, on se contente, là, mais on va être ensemble. Puis. Non, c'est pas ça. Hein? On est comme ça, comme chrétien, des fois. Dieu, on va être avec pour l'éternité, puis là, ben. Sauvé, mais on va attendre. Il va venir, Jésus, quand il va venir, on va être avec lui pour l'éternité. Puis, pas pire que ça. C'est pas ça. Comme la jeune fille qui est en amour, waouh! Hey, qu'est-ce que ça fait? Elle en parle tout le temps de son chum. On vient de tanner de l'entendre. Donc, elle en parle beaucoup. Il est beau, il est fin. Même, il sent bon. Hein, vous savez, il y a toutes les qualités. J'ai hâte de le voir. Je vais être dans sa présence. Donc, lorsqu'on est en amour, on veut être dans la présence de l'autre. Dans le cas de la jeune fille, on sait bien qu'après quelques années, peut-être qu'elle va trouver qu'il sent moins bon ou elle va trouver des défauts et tout ça. Mais avec Jésus, c'est différent. C'est plus on le connaît, plus on l'aime, plus on va être près de lui, puis plus on en a besoin, puis moins on est capable de s'en passer. Parce que Jésus est parfait. Et plus on le découvre, meilleur c'est. Donc, c'est pas. Mais c'est pour vous dire que quand on aime, on veut être dans la présence, on recherche la personne. Moi, ça, pardon. Donc, comme la jeune fille ne peut pas s'empêcher de parler de celui qu'elle aime, même chose pour nous quand on aime, quand on recherche Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle aime en parler? Parce que même en parler de son chum, ça lui procure du plaisir. Si elle se tait, ça trouve ça dur. Je me souviens, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'était la nuit. Et j'avais beaucoup de joie dans mon cœur et j'aurais voulu la partager. Ce que j'ai trouvé dur, c'est que j'étais toute seule. Je ne pouvais pas aller réveiller les gens. Hey, je suis sauvé, tu sais. Il n'était pas chrétien en plus. Il n'aurait peut-être pas aimé ça. Mais le fait d'avoir, de vivre quelque chose de merveilleux avec Jésus, on veut le partager. Et on a ici une citation que je vais vous donner qui est de C.S. Lewis. Il dit, « Je n'avais jamais remarqué que tout plaisir suscitait spontanément la louange. » Donc, lorsqu'on est content, lorsqu'on est heureux en Dieu, nos cœurs sont portés à louer automatiquement. « Le monde résonne de louanges. » Donc, il donne quelques exemples. Les lecteurs louent leur poète favori, les marcheurs, la campagne, donc ils trouvent ça beau, la nature et tout ça. Les joueurs, leur passe-temps favori, on pourrait dire la fiancée, son fiancé. Je crois que nous aimons faire l'éloge de ce que nous apprécions, car la louange ne fait pas qu'exprimer notre plaisir, elle le complète. Elle est le parfait accomplissement. Donc, lorsqu'on loue le Seigneur, c'est comme si c'est encore mieux, c'est encore plus... Ce n'est pas plus le fun, mais ça comble le plaisir. Et je me souviens, j'ai déjà fait un voyage de 3 semaines seul. Et la chose la plus dure, c'était que je voyais des super de belles choses, des belles montagnes, des beaux lacs, des rivières super. Moi, j'aime beaucoup la nature. C'était waouh! Mais j'étais tout seul. Avoir été avec une autre personne, on en parle. Waouh, c'est beau! Hey, regarde ça! Oh, c'est waouh, ça aussi, c'est beau! Quand tu es tout seul, tu ne peux pas le partager. Et quand tu peux le partager, c'est comme ça double le plaisir, ça augmente le plaisir. Et le fait qu'on puisse louer Dieu parce qu'il nous crée une joie, ça augmente la joie encore, la louange. Dieu est glorifié quand je le recherche. Dieu veut que je le recherche. Une autre raison, c'est qu'il est glorifié par cela. Et les anges et les autorités dans le ciel voient qu'il y a des êtres sur la terre qui étaient méchants, qui sont maintenant sauvés, puis qui glorifient Dieu, puis qui cherchent Dieu, qui ne comprennent pas. Ils vont comprendre, même les anges ne comprennent pas encore tout ce qui se passe. Et le fait qu'on soit transformé et que Dieu soit tellement important pour nous, ça rend gloire à Dieu. Une autre raison pour laquelle on doit chercher Dieu, c'est qu'il est la seule personne qui ne nous sera jamais enlevée. Sur cette terre, tout peut nous être enlevé, mais Jésus ne nous sera jamais enlevé. Je vous donne un exemple. Au début de ma vie chrétienne, j'ai été dans un groupement un peu comme JBEC. JBEC au Québec, moi c'était comme, ils appelaient ça SWIFT, mais c'était dans le milieu anglophone, en Alberta et Colombie-Britannique. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant l'été? On était un groupe de 8 jeunes. Puis on faisait du porte-à-porte, évangélisation, on faisait dans les camps avec les jeunes, avec les camps, aussi dans les églises, on donnait nos témoignages et tout ça. Et on était ensemble pendant 2 mois. Et après un mois et demi, on s'est séparés en deux groupes, là. Et lorsqu'on est venu pour se séparer, je me souviens, c'était un dimanche matin après l'église, j'ai mis à pleurer. Je pleurais. Je ne me reconnaissais plus. C'était là. Puis là, je trouvais ça dur parce que ces gens-là, je savais que je ne les reverrais plus. La plupart demeuraient en Ontario et bien, une personne comme Louis-Britannique, je savais que je ne les reverrais plus jamais. Et ça fait plus de 40 ans et je ne les ai pas revus encore, c'est sûr. Donc, le fait que je ne les reverrais plus, c'est comme si ça brisait mon cœur. Voyons. Puis, pour vous dire, j'étais surpris de mon comportement parce que je ne pleurais pas, moi. J'avais 23 ans à ce moment-là et depuis de ma vie d'adulte, je ne me rappelais pas d'avoir pleuré. C'était pas pour les hommes pleurer, c'était autant que je pouvais avoir le bouton dans la gorge, mais je me retenais, puis j'étais capable. Mais là, je n'étais pas capable, ça sortait. À mes beaux vouloirs, je n'étais pas capable. Et pendant presque 15 minutes, là, ça se passait pas. Et ce que Dieu avait comme raccordé mon cœur était comme... Comme si Jésus m'avait redonné mon cœur quand je suis devenu sous chrétien. Et, mais j'étais. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu permettait que je me sois attaché à tous ces gens-là, comme jeune chrétien, et que maintenant il les enlevait. Dieu, voyons, je ne pourrais plus jamais m'attacher. Je m'attache à des gens, puis ça nous est enlevé. Je n'avais pas réalisé que ça ferait cet effet-là quand on se séparait. Là, je dis à Dieu, ouais, ben c'est pas facile la vie, là. Je ne pourrai plus jamais m'attacher, je vais toujours hésiter à m'attacher. Et qu'est-ce que Dieu m'a fait réaliser? C'est que on n'est plus dans le jardin, on n'est pas dans le jardin d'Éden, hein, et que sur terre, on est appelé à avoir des pertes. Il y a des pertes, on va souffrir, et des gens qui vont mourir. Et, mais je dis à Dieu, mais j'ai le besoin de m'attacher. C'est que tu m'as créé comme ça. Il me dit, oui, attache-toi à moi. De tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme, attache-toi à moi autant que tu peux, avec toute ton énergie, et pas peur. Ton besoin de t'attacher, tu peux l'assouvir en moi. Attache-toi autant que tu pourras. Et je comprends pourquoi Jésus a dit, aimez Seigneur ton Dieu de tout votre cœur, votre âme, votre force, votre pensée, parce qu'il ne nous sera jamais, jamais, jamais enlevé. On ne sera jamais déçu. Et ça, ça a réconforté mon cœur, malgré la peine que j'avais. C'est quelque chose de grand que le Seigneur m'avait fait réaliser à ce moment-là, qu'il ne me serait jamais enlevé et que je pouvais m'attacher à lui de toutes mes forces. Maintenant, ah oui, je vais vous lire un texte de M. Larry Crabb qui résume un peu ce que je viens de vous dire. Il dit, « Le monde est un endroit trop mauvais et trop incertain pour y établir une demeure et pouvoir en jouir. Mais c'est un lieu idéal pour y découvrir Dieu. » Donc, le monde dans lequel on vit, c'est un endroit difficile. On voit qu'il est mauvais, incertain. Et on ne peut pas établir notre demeure permanente matériellement. On ne peut pas s'attacher à des gens en permanence. On n'est pas immortel. Des fois, on vit comme si on était immortel, mais non. On ne peut pas s'accrocher sur cette terre. Mais toutes ces souffrances, ces privations, cette insécurité qu'on vit sur la terre, c'est un lieu idéal pour y découvrir Dieu. Et c'est un peu ça que j'avais expérimenté. La douleur que j'avais, que je ne comprenais pas, Dieu m'a montré, oui, tout ça, là, ça te montre que, oui, tu peux venir à moi. Donc, sur la terre, tout ce qu'on vit de difficile, c'est le meilleur endroit pour connaître Dieu. C'est bon, ça, connaître Dieu. Et c'est ça qui est le principal. On doit... Pourquoi connaître Dieu davantage, se rapprocher de lui, le chercher? Parce que, un autre point, il est suffisant en toutes choses. Bon, j'ai dit qu'il va toujours être là. Mais en plus de tout être là, il est suffisant en toutes choses. Sa grâce est suffisante. Je donne un autre exemple. Quelques années après, j'ai commencé à fréquenter mon épouse Marjolaine. À ce moment-là, ce n'était pas mon épouse, là, mais en vue éventuellement de se marier. Et à un moment donné, je disais à Marjolaine, on est fous un peu, nous autres. Là, on s'attache, on se fréquente, on va se marier. Puis un jour, il y en a un des deux qui va mourir, on va avoir des enfants, peut-être qu'il y en a un qui va être malade, qui va mourir. Puis là, on se fait de la peine. Si on ne se marie pas et qu'on ne fait rien de ça, ben, on n'aura rien. C'est cérébral pas mal, la patente. Hein? Fait que là, Dieu nous a montré, actuellement, là, je ne vous donne pas la force, je ne vous donne pas la grâce de supporter ça, là, parce que vous ne le vivez pas. Aujourd'hui même, ça peut vous inquiéter, mais le futur, c'est moi qui m'en occupe. Et quand ça va arriver, si ça arrive, je vais être là pour vous soutenir. Et quand on vit des épreuves qu'on n'aurait pas vécues si on était resté célibataire, bien, le Seigneur est là pour nous soutenir. Si on a, comme on a un enfant qui est très, très malade, mais le Seigneur, il est là. Puis il nous soutient de sa grâce, puis il la soutient lui aussi, puis il la fortifie, puis il l'utilise. Donc, on a des bénédictions à travers les souffrances, parce que Dieu il est suffisant à toutes choses, et sa grâce est suffisante. Donc, à cause que Dieu est là, maintenant, on n'a plus peur de s'attacher. Une autre raison pour laquelle on doit chercher Dieu, c'est que si on est plus près de lui, on va pouvoir résister mieux à la tentation. Et on va voir, plus on est près de Dieu, plus le monde, on le voit dans une autre perspective, on le voit avec l'œil de Dieu. Et je vais vous donner une autre citation, M. John Piper, dans son livre « Dieu est l'Évangile ». Il dit, « À contempler la gloire de Christ, nous prenons de plus en plus plaisir dans cette communion avec lui, et nous avons alors encore plus hâte de le voir au ciel. » Cela produit un effet libérateur devant les tentations du monde. Donc, le fait qu'on contemple, qu'on recherche Jésus, ça nous fait qu'on le connaît plus, mais on a plus hâte de le voir. Et nos yeux sont plus vers le ciel. On a hâte de le voir. Et les tentations de ce monde nous sont plus faciles. Il dit que ça a produit un effet libérateur. Excusez, je vais poser ma chaise pour voir le chronomètre. Donc, et il ajoute un petit peu plus loin, le Saint-Esprit ne nous transforme pas en s'attaquant directement à nos mauvaises habitudes, mais en nous portant à admirer Jésus-Christ à tel point que nos péchés nous paraissent étrangers et choquants. Donc, le Saint-Esprit, il ne dit pas, « Ah, tu as fait tel péché-là, fallait plus. Je te surveille, fallait plus. » Non. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il nous transforme et en étant transformé, la mauvaise habitude, le péché, a moins d'emprise sur nous. Puis, nous, il dit, nos péchés paraissent même étranges et choquants. Moi, ça se fait que j'avais de la misère avec ça. Et, oups, cette valeur, ça devait déplaire à Jésus, ça. Maintenant, je suis plus près de Jésus. Ce péché-là n'a plus d'emprise sur moi. Cette mauvaise habitude-là n'a plus d'emprise sur moi. Donc, on ne vainc pas le péché en travaillant sur le péché, en essayant de transformer nos actions, nos pensées, mais plutôt en recherchant Jésus qui, lui, va transformer nos désirs, nos aspirations, nos affections. Donc, un jour, on va être semblable à lui, on va être parfait, on va être transformé à son image. Ça va être merveilleux. Et un verset dans 2 Corinthiens qui va dans le même ordre d'idées, qui nous parle lorsqu'on contemple Jésus. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Donc, on le contemple. Certains versets disent qu'on reflète comme dans un miroir. Donc, on le contemple comme dans un miroir. C'est pas clair, mais on le contemple quand même. Et le fait de le contempler, de le regarder autant qu'on peut le faire, ça nous transforme à son image. Et on dit que ça ne cesse de grandir. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur en nous. Et le fait que ça nous transforme, ben, le péché a moins d'emprise sur nous, beaucoup moins. Et on est plus à l'image de Jésus. Donc, nous nous imprégnons de ce que nous admirons. C'est le contraire de narcisse. Vient le mot narcissique. Vous avez probablement déjà entendu parler d'histoire de Narcisse. Narcisse, ça vient de... C'est un homme qui contemplait sa propre image. C'est un personnage qui vient de la mythologie grecque. C'est pas une vraie personne, mais dans la mythologie grecque, on disait qu'il se trouvait tellement beau, tellement fier de lui, qu'il aimait... Il était devenu amoureux de lui. Il aimait son image qui se reflétait dans l'eau. À l'époque, il n'y avait pas de miroir, mais quand il voyait son image dans l'eau, ah, lui, là, il s'aimait beaucoup, puis il se trouvait beau. Si bien que ça a causé sa perte, parce que Narcisse est tombé dans l'eau, puis s'est noyé. Donc, trop attiré par lui-même, il s'est noyé. Donc, c'est le contraire de Narcisse, qui est attiré juste vers lui. Nous allons vers Jésus, et c'est lui qui va nous transformer. Donc, pourquoi encore rechercher Dieu pour avoir plus de discernement? J'en ai parlé la dernière fois, ou non, pas la dernière fois, mais lors d'un message antérieur, lorsque j'avais compté que j'étais perdu en forêt et je cherchais le soleil pour m'orienter. Et quand on a le soleil, on peut orienter où sont les points cardinaux. Et quand Jésus est le soleil au milieu de notre vie, tout le reste, on peut prendre sa place. Donc, il nous aide à nous orienter. Pourquoi chercher Dieu? Et j'aurais pu le mettre au début, pour avoir une relation plus intime avec lui. Une relation plus intime avec lui. Donc, nous avons vu le psaume 105 qui dit « Cherchez continuellement sa face, vive continuellement en sa présence. » Et rechercher plus que la protection, mais l'intimité. Je reviens avec notre verset du début. Psaume 103, verset 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Mon âme a soif de toi. Il y a une soif ici. On sait c'est quoi la soif physique. Et quand j'ai soif, je prends un peu d'eau. Et ici, il parle de la soif de l'âme. Et seulement Jésus peut assouvir cette soif-là, soif de l'âme. Mon corps soupire après toi. Donc, même son corps ne soupirait pas après la nourriture, il soupirait après Dieu. Et dans une terre aride, desséchée sans eau. Donc, cette terre-là reflétait peut-être son âme, son assoiffée. Mon âme était un peu comme dans ce désert-là. Et David ne voulait pas rester là. Il avait une soif, mais il ne voulait pas rester là. Il voulait que Dieu comble cette soif. Maintenant, c'est ça aussi, on ne doit pas aller. On doit aller à Dieu pour plus d'intimité et non pas pour ce qu'il me donne. Comme quelqu'un, un monsieur qui va marier une femme très, très riche, donc il ne la marie pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il, pour ce qu'elle va lui donner. Okay? Et souvent, on est plus intéressé à prendre ce que Dieu nous donne que de le connaître et d'avoir une intimité avec lui. Une autre citation ici de M. John Piper, lorsqu'il a fait le lancement de son livre « Dieu et l'Évangile », j'avais pris ça en note, il dit « Nous cherchons les choses que Dieu nous donne, mais nous négligeons le Dieu qui nous les donne. » Donc, on recherche les cadeaux de Dieu, mais on oublie le Dieu qui va nous les donner. Comme on dit souvent, c'est plutôt sa main qu'on cherche qui donne au lieu de sa face. Et il disait, M. Piper, les dons mènent à celui qui donne. Tu regardes ce que Dieu t'a donné et ça te mène à lui. Une autre citation de M. Anderson. Oh, excusez. Daniel Anderson, dans son livre « Transformons nos prières ». Il dit, « L'idée de la face de Dieu est l'un des thèmes les plus puissants et transformateurs de la Bible. Pourtant, de nombreux individus vivent leur existence entière en n'accordant que très peu d'importance au moment de tête à tête avec Dieu. » Donc, dans la Bible, face à face avec Dieu, c'est super important. C'est un des thèmes les plus puissants. Mais, beaucoup de personnes font leur existence entière sans avoir trop d'importance à avoir un temps avec Dieu intime. Oui, je suis sauvé, je suis chrétien, mais quand je ne suis pas capable d'aller dans la présence de Dieu, il me semble qu'il ne se passe rien. Et je demeure avec une sécheresse spirituelle dans leur vie. Donc, c'est pour ça que je vous incite à rechercher Dieu davantage. C'est la Bible qui le dit. Et chercher la face de Dieu, ce n'est pas de la religion. Hein, ce n'est pas en récitant des chapelets ou des prières apprises par cœur, mais c'est que le Dieu, le Créateur, lui qui m'a sauvé, il veut que j'aie faim de lui. Donc, et il veut qu'on ait soif de le connaître davantage. Et ce n'est pas une obligation, c'est un privilège. Imaginez-vous, le Créateur de l'univers dit, hey, « Viens vers moi. » Comme une personne très, très importante, la plus importante que vous connaissez sur Terre, dit, « Hey, je t'invite à venir manger avec moi, souper avec moi. Je veux que tu me connaisses. » Et là, c'est le Créateur de l'univers qui dit, « Oui, je veux que tu me connaisses davantage. Je veux que tu sois plus près de moi. Je t'aime. Il nous aime. » Et j'ai une autre histoire ici. C'est M. Hudson Taylor qui a fondé la mission à l'intérieur de la Chine. Il a passé la majorité de sa vie parmi les Chinois, et il y a eu un grand succès pour l'évangélisation là-bas. Et après quelques années de sécheresse spirituelle, comme chrétien, il a découvert la vie abondante en Jésus. Quelques temps après, malheureusement, son épouse est décédée, elle était dans la trentaine, très, 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 très jeune. Et Hudson Taylor vivait une relation tellement près avec Dieu qu'il se demandait si sa femme avait une aussi bonne relation avec Jésus, même s'il était face à face avec lui. Regardez, on va prendre ses paroles. Il dit, « Je me demande souvent s'il est possible que celle qu'il m'a reprise en parlant de son épouse éprouve dans sa présence plus de joie que moi. S'il l'a prise au ciel, il a fait descendre le ciel en moi, car il est le ciel. Dans sa présence, il y a une plénitude de joie. » Donc, il a pris mon épouse, puis là, il se demandait et elle pouvait être plus heureuse que lui, tellement il avait une vie spirituelle abondante. Et il s'est pris mon épouse, il a fait descendre le ciel en moi. Donc, il y avait une... Et ça, je me dirai jamais que je connais suffisamment le Seigneur tant que je n'aurai pas la joie qu'Hudson Taylor avait. Et c'est un défi pour nous. C'est un défi à atteindre. Donc, on ne sera jamais... Je souhaite à tous qu'on puisse donner aussi près de Dieu, mais c'est quelque chose. Et je ne peux pas jamais penser que je connais Dieu suffisamment que je peux arrêter ma recherche. Une autre raison pour laquelle le chercher, c'est qu'il récompense ceux qui le cherchent. Vous devez dire, ouais, mais il faut pas le chercher pour ce qu'il nous donne. Hein? On va voir Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, c'est pas marqué qu'il déçoit ceux qui le cherchent ou qu'il néglige ceux qui le cherchent. Donc, si on le cherche, on peut penser qu'on néglige certaines choses pour le chercher, que le monde nous offre, mais lui, il va nous donner une récompense qui est encore plus grande. Et cette récompense-là, je crois, premièrement, c'est lui-même qu'il s'offre à nous. C'est la récompense, c'est de le connaître davantage, c'est d'expérimenter une intimité avec lui, c'est de goûter la paix, la joie qu'on découvre en sa présence. Et en plus des récompenses éternelles. Donc, la récompense, c'est lui. C'est lui. Maintenant, on a vu pourquoi chercher la face de Dieu. Maintenant, on va voir comment. On l'a vu dans le verset du début, de tout mon cœur. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ta force, etc. Et donc, il nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Donc, il veut qu'on le cherche de tout notre cœur. Et j'ai un autre verset ici. Dans Jérémie 29, versets 13 et 14, c'est Dieu qui parle, il dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, c'est comme s'il y avait une intensité ici. Tu sais, quand David, il dit, « J'ai soif. » Quand on a soif, on cherche avec intensité, parce que si on ne boit pas, on va mourir. Donc, il y avait vraiment soif. Il nous manque quelque chose. Donc, ensuite, il dit, « Si vous me cherchez, de tout votre cœur, vous allez me trouver. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Donc, Dieu ne joue pas à la cachette. Dieu ne joue pas à la cachette. Il veut se laisser trouver, mais il demande qu'on le cherche de tout notre cœur, avec toute notre force. Ce n'est pas une recherche, vous cherchez quand on aura le temps. Non, c'est vraiment intense. Et je reviens encore avec M. Larry Crabb, dans son livre « À la découverte de Dieu », il dit, notre découverte de Dieu dépend de l'ardeur avec laquelle nous désirons le trouver. L'ardeur avec laquelle nous désirons le trouver, nous désirons le chercher, nous avons soif de lui et de tout notre cœur. Aussi, nous devons le chercher, si c'est de tout notre cœur, ça va être de plus que toute autre chose. Le chercher plus que toute autre chose et plus que toute autre personne. Je cite encore M. Larry Crabb. Il y a quelque chose dans notre identité et dans la sienne qui rend nécessaire que nous le désirions plus que quiconque ou quoi que ce soit avant de pouvoir le trouver. Donc, il y a un élément de désir ici. Il veut qu'on le désire plus que toute autre chose pour le trouver. S'il y a des choses dans notre vie qui prennent la place, qu'on désire plus, qui nous accaparent plus, on ne le trouvera pas. On ne le trouvera pas. Il faut qu'on le cherche lui en premier. Donc, tout ça, ça nous amène à l'adoration. Et Jésus nous demande de l'adorer. Jésus a dit à la Samaritaine, le Père cherche quoi? Cherche des adorateurs. Hein? Il nous demande de chercher, mais lui cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et dans Matthieu, nous disons, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, si je recherche plein de choses qui ne sont pas Dieu, qui peuvent être bonnes aussi, mais qui ne sont pas Dieu, ma recherche de Dieu n'est pas de tout mon cœur comme lui le voudrait. Et là où est ton trésor, là sera ton cœur. Le trésor, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'est-ce qui a le plus de valeur. Et on connaît des personnes qui ont passé leur vie à chercher de l'or, puis ils en ont peut-être trouvé, qu'ils en ont trouvé ou pas, ça ne les a pas rendus plus heureux. Et je suis avec mon père, lui, son but dans la vie, c'était être riche, mais ça ne l'a jamais rendu plus heureux. Une autre citation de M. Michael R. Hamlet, dans son livre « Contact entre la Bible et mon histoire ». Notre vie est contrôlée et orientée par ce à quoi nous attachons de la valeur. Donc, on est libre, on n'est pas... Vivre la liberté, on est dans un pays libre. La liberté est une valeur importante, mais on ne réalise pas qu'on est prisonnier ou qu'on est contrôlé par certaines choses. Et notre vie, elle est contrôlée par les choses à laquelle on attache de la valeur. Si c'est Dieu qui est notre plus grande valeur, ça va être ça. Si c'est un sport, c'est notre travail, c'est l'argent, c'est ça qui va nous contrôler notre vie et notre attitude. Continue la deuxième phrase. Nous sommes enclins à adorer ce que nous croyons être source possible de joie, de bonheur, de paix, de contentement et toute autre chose semblable. Donc, qu'est-ce qui va nous produire un grand, grand plaisir qui va, ah, je suis bien quand j'ai ça, ça peut être, moi, je veux une grosse maison, c'est ce qu'il me faut, moi, je veux beaucoup d'argent, moi, je veux n'importe quoi. Je veux la gloire. C'est ça qui me contrôle. C'est ça que je vais adorer. On continue la dernière phrase. Il nous est facile d'afficher qu'en définitive, nous adorons Dieu, mais notre vie quotidienne révèle les dieux concrets que nous servons au moment présent. Donc, notre façon de parler, les choses dont on parle tout le temps, qui nous intéressent, les choses qu'on veut prouver, qu'on veut montrer aux autres, les choses qui nous passionnent plus que d'autres choses, bien, ça devient ça notre Dieu. Alors, Dieu veut être le premier, il est digne de toute notre adoration. Et lorsque on adore Dieu, Dieu nous met comme à notre place, où on doit être dans son plan, là où il veut qu'on soit. On se casse la tête des fois, « Dieu, montre-moi ta volonté, c'est quoi ta volonté de telle affaire? » Mais sa volonté, tout de suite, c'est que je cherche sa face, que je délaisse les choses, peut-être pas mauvaises, mais futiles, secondaires, pour m'accrocher à lui et le chercher. Entretenir une relation avec Dieu ou le trouver, ça semble difficile et hors de notre portée. Et on peut penser que c'est une obligation, puis c'est ennuyant. J'ai grandi dans une religion où c'était ennuyant. Quand j'allais à l'église, c'était l'église catholique à l'époque, et c'était ennuyant, et j'avais jamais eu de fun à aller là. J'avais hâte que ce soit terminé. Okay? Et c'est pas ça que Dieu veut pour ses enfants. Dieu n'est pas un Dieu plate. Dieu est un Dieu merveilleux, intéressant, grand, qui vaut la peine de connaître. Et Jésus ne veut pas aussi un amour forcé. Il désire que je prenne plaisir dans sa personne. Et comme je viens de dire, on est naturellement attiré par ce qui nous procure du plaisir. Et quand on voit dans Hébreu, qu'on a lu tantôt, si on s'approche de lui par la foi, la vraie foi, c'est de croire qu'il va nous récompenser. Et le fait d'aller vers lui, on sait qu'on va avoir plus avec lui. Sa présence va nous combler. Et on va toujours vouloir en avoir plus. Je vous donne une autre citation. Monsieur Dwight Edwards, dans son livre qui s'appelle « Révolution intérieure », il dit, « Comme le dit un ancien dicton écossais, certaines choses sont mieux ressenties que décrites. Tant que nous n'avons pas connu la présence ardente de Dieu dans notre âme, nous pouvons être des savants, mais pas des adorateurs. » Donc, quand on se rapproche de Dieu, il y a une soif, une soif qui est comblée, oui, mais il y a une paix, il y a une joie qui vient là, qui est indescriptible. Et ça, intellectuellement, ça ne se comprend pas, c'est Dieu qui le fait par son esprit. Donc, on peut être des savants, la tête bien pleine, mais ne pas être des vrais adorateurs. Comment se rapprocher de Dieu, comment le découvrir, un autre point, c'est prendre du temps avec lui. C'est-à-dire, c'est normal, mais ça ne vient pas tout seul. Donc, Jésus allait souvent à l'écart pour prier. Souvent, souvent, il s'en allait tout seul. Et pensez-vous qu'il faisait ça par obligation ou par plaisir? Quand Jésus se retrouvait face à face devant le Père, il n'y avait plus les brouhahas des gens qui couraient après lui pour être guéris ou qui posaient des questions ou qui le rejetaient tout seul avec son Père. Quel plaisir il devrait y avoir là. Donc, Jésus ne perdait pas son temps. C'est un des temps vraiment bénis pour lui et avait beaucoup de plaisir. Donc, nous avons, pour nous rapprocher de Dieu, nous avons la parole de Dieu, sa lettre d'amour qui nous a laissée. Lisons-la, méditons-la pour découvrir le cœur de Dieu. Je suis content qu'on fasse un livre qui s'appelle « Doux et humble de cœur » pour découvrir le cœur de Jésus, dans lequel on voit certains versets clés qui nous montrent quel est le cœur de Jésus. Et c'est bon de lire ça, les livres. C'est bon de lire surtout la Bible, mais de certains livres qui font ressortir à quel point Jésus nous aime. C'est très, très, très bon. Et Des fois, on lit la Bible, puis ça nous parle pas. Et la parole n'est plus vivante pour nous. Donc, prions Dieu qui rend sa parole vivante, qui enlève peut-être des choses, des fardeaux, des péchés dans nos vies qui nous bloquent, qui bloquent son esprit, qui empêchent de nous parler, parce que la parole de Dieu est vraiment vivante. Et je me souviens, quand je sortais avec Marjolaine, on était à distance, Sherbrooke, Gaspésie, et il n'y avait pas d'Internet, on s'écrivait. Je recevais peut-être une lettre par jour, et j'en écrivais une par jour. Et quand je recevais la lettre, là, je la lisais tout de suite, là, et je la savourais, et je m'imprégnais de tout ce qu'il y avait dedans. Donc, la Bible, c'est la même chose. C'est une lettre d'amour que Dieu nous écrit. Et je crois qu'on doit la savourer et s'en imprégner. J'ai dit prendre du temps avec Dieu pour la lecture de la Bible et aussi du temps seul, la prière. Et ici, je vais parler du principe du sabbat. Le sabbat, c'est quoi? Dieu avait demandé aux Juifs de mettre une journée à part où ils ne pouvaient plus travailler. Travaille 6 jours, une journée tu te reposes. Donc le but, c'était de récupérer physiquement et aussi de rien faire pour être disponible à prier. Parce que quand on n'arrête pas complètement, ça veut dire que les autres, quand ils ne pouvaient rien faire, là, bon, ils pouvaient penser des choses qu'ils avaient à faire, mais ils ne pouvaient pas y aller. Et nous, quand on est un temps avec Dieu, des fois, telle chose à faire, je ne peux pas, telle chose à faire. Non, on a encore telle chose à faire. Donc, notre esprit n'est pas là. Et souvent, on fait plein de choses tout le temps. Puis, on ne prend pas de temps à part avec Dieu. Et quand on prend du temps avec Dieu, des fois, on a l'impression que ça ne bouge pas, qu'on perd notre temps. Et le diable va nous dire, tu perds ton temps. Alors que nous, on prend du temps avec Dieu. C'est le contraire. Et Dieu va finir par toucher nos cœurs, il va pourvoir. Donc, faire confiance à Dieu qu'il va pouvoir à mes besoins, malgré que je prends du temps avec lui, un temps précieux que je pourrais faire. Je me rappelle, moi, tous les samedis matin, quand les enfants étaient jeunes, ils disaient, bon, là, un matin, si vous voulez pas déranger papa, là, je passais, mettons, 1h30, 2h, là, seul, dans la chambre, à avoir un temps avec le Seigneur. Et je me sentais un peu coupable parce que je me disais, ouais, les enfants, j'ai beaucoup de travail, je ne vois pas beaucoup la semaine, puis tout ça. Puis, je voyais quand même pas mal. Mais il y avait d'autres choses aussi que j'aurais voulu faire, mais le Seigneur, le matin, la semaine, là, m'occuper des enfants, tout ça, aller travailler, je n'avais pas vraiment une bonne intimité avec Dieu. Donc, le samedi, si vous voulez, je me sentais un peu coupable, mais je l'ai fait. Le Seigneur m'a donné vraiment des bons temps. Et un jour, j'ai demandé à une de mes filles, qu'est-ce qui a fait que le Seigneur, tu sais, maintenant, t'es grande, là, t'as 30 quelques années. Moi, c'est vrai que t'as continué, t'as cru qu'est-ce qu'on disait. Elle m'a dit, tu sais, le temps que tu prenais le samedi matin à part, là, je voulais pas qu'on te dérange, là, puis c'était sérieux, là. Ça m'a fait réaliser que c'était sérieux. Dans ta vie, Jésus, c'était sérieux. C'est pas rien. Wow! Quand je faisais ça, je me disais, je perds du temps ou je devrais peut-être être plus avec eux autres. Non. Ça ne veut pas dire de ne pas être avec vos enfants. On a passé beaucoup de temps avec nos enfants, camping, dans les camps, etc. Et à la maison aussi, les cultes personnels, les cultes avec eux. Mais c'est ça. Donc, le Seigneur a montré quelque chose à mon enfant que je ne pensais pas que je lui montrais en faisant ça. Et je ne suis pas super spirituel pour ça, mais le Seigneur m'a toujours donné une soif de le connaître davantage. J'ai toujours l'impression que je ne le connais pas assez. Et mais merci Seigneur, je n'ai pas toujours eu cette soif-là, mais le Seigneur me la donne et je veux essayer de vous la communiquer. Certaines personnes n'ont pas de l'intimité avec Dieu parce qu'ils ont été blessés dans leur enfance, ils ont eu une intimité, essayé d'avoir une intimité avec leur père, leur mère ou une personne significative, et ils ont été blessés, négligés. Et vous pensez que Dieu, cette personne-là en autorité, est comme ça. On sait que Jésus et le Père aussi sont doux et humbles de cœur, ils ne sont pas comme ça. Et vous avez vécu une traumatisme quand vous étiez jeune, une personne vous a abusé, ou peu importe, là, spirituellement ou physiquement. Mais Jésus n'est pas comme ça. Si Jésus avait été à la place de cette personne-là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais fait ça. Ce n'est pas votre faute non plus. Donc, Jésus n'est pas cette image que vous avez d'un père colérique qui pourrait l'être. Et je vais vous mettre une citation ici de M. Daniel Anderson qui parle un peu de ça. Certains d'entre nous portent encore le bagage transmis au cours de leur enfance par leurs parents ou par d'autres figures d'autorité qui étaient souvent distantes, négligentes, voire dénaturées, et je dirais même mauvaises. Donc, et lui disait que ça empêche de venir à Dieu et que ça peut nuire. Et je peux comprendre ces personnes-là. Demandez à Dieu qu'il se révèle tel qu'il est à vous, qu'il console vos cœurs, qu'il vous guérisse. Isaac Newton, c'est un chrétien, un grand scientifique, il a donné ce témoignage-là. Il dit, moi, j'ai des télescopes, puis je peux voir dans l'univers à des millions de milles, c'était des milles qu'il disait, et c'est vraiment merveilleux tout ce que je vois. Mais si je mets mes télescopes de côté, j'entre dans ma chambre, puis je prie dans la présence de Dieu, j'ai un bon temps avec Dieu, je vais dire ces paroles, il dit, je vois davantage le ciel et je peux m'approcher plus près de Dieu que je peux le faire avec mes télescopes. Donc, j'ai dit, je suis plus près du ciel lorsque je suis dans la présence de Dieu qu'avec tous mes télescopes. Et c'est vrai. Un autre élément, comment découvrir Dieu, comment le chercher, c'est lui avouer mon indignité et mon incapacité. Lui ouvrir mon cœur. Parce que peut-être depuis que vous m'entendez, vous dites, ouais, c'est bien beau, Yvan, ce que tu dis là, mais je ne suis pas capable. J'ai beau essayer, je prie, je parle du temps avec Dieu, je lis ma Bible. C'est toujours sec. Okay? Et je pense qu'on est tous pas capables. On est tous des pécheurs. Et je crois qu'on doit lui avouer qu'on est indigne de s'approcher de lui. On devient digne à cause du sang de Jésus qui est mort pour nous. Mais comme pécheurs, nous-mêmes, dans notre humanité, on est indigne de s'approcher de lui. Demandons-lui de nous aider avec tel péché, de lui demander de nous révéler quel péché qu'on ne voit pas qui peut nuire à notre relation, qui brise notre relation ou qu'on connaît, qui nous fait sentir coupable. Lui avouer notre détresse et notre besoin de lui. Moi, je suis capable, Dieu, de m'approcher de toi. J'arrive. Non, je ne suis pas capable, viens me chercher, viens à mon secours. C'est dans cette attitude-là que je pense que Dieu va se manifester. Donc, crier à lui. Je vous donne un exemple, un sauveteur de plage. Le sauveteur de plage était sur sa chaise haute, pas comme un bébé, mais une chaise plus haute pour voir partout. Et c'était dans un lac. Et il y avait beaucoup, beaucoup de bruit, des cris, des enfants qui pleuraient, le monde qui parlait fort. Il surveillait, regardait tout. Quelqu'un lui a demandé, s'il y a quelqu'un qui t'a presque noyé, là, qui crie, là, tu ne l'entendras jamais. Depuis que je suis sauveteur, peu importe les bruits ou le cri qui est autour de moi, j'ai toujours su distinguer un cri de détresse d'un autre cri. Donc, un cri de détresse est un cri particulier que lui était capable d'identifier. Et un cri de détresse devant Dieu, c'est un cri particulier. Et prenez la concordance et regardez dans les psaumes avec le verbe « crier ». Il y en a. Comment le psalmiste a crié. OK? Et notre fille Myriam était sauveteur de plage déjà, puis quand elle était en service, elle ne voulait pas qu'on lui parle. Parce qu'elle était occupée, surveillée, au cas où il y en a qui seraient en besoin. Toujours, toujours. Et Dieu est là. Il nous surveille constamment et il est prêt, si quelqu'un crie à lui, à y aller le chercher. Sauveteur de plage, saute à l'eau, va le chercher. Tu as crié à moi, tu as besoin, je viens te chercher. Je vous donne un témoignage personnel. Il y a eu une période au cours de ma vie spirituelle, après 7-8 ans de vie chrétienne, où je vivais un genre de désert spirituel. C'est comme, je lisais ma Bible, là, ça ne m'apportait plus rien. Je ressentais vraiment la sécheresse de mon âme et je ne goûtais plus la fraîcheur de la présence du Saint-Esprit dans ma vie, la joie d'être sauvé. Et je me sentais un peu comme ça. Le Seigneur m'avait donné une image. Vous voyez le fleuve ici, c'est l'eau vive de Dieu. Et il y avait comme un barrage qui empêchait l'eau vive de Dieu de venir dans ma vie. C'était un peu comme ça. Et là, après un certain temps, à un moment donné, là, j'ai dit, c'est trop, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Là, j'ai crié, vraiment crié à Dieu. J'ai demandé intensément de toucher mon cœur, de me parler, de me faire goûter à sa présence. C'est comme si je sentais que mon cœur était sec, de me redonner sa joie. Dieu, j'ai soif de toi. Et l'image que Dieu m'a donnée, c'est comme j'avais ce barrage-là dans ma tête que je voyais. Je me sentais un peu comme ça. Et l'image qu'il m'a donnée, c'est comme si ce barrage-là, oh, il y avait une petite craque qui s'était formée, une petite fissure. Puis là, il y a un petit filet d'eau qui commençait à couler. C'est comme si le Seigneur me montrait, tu vois, j'ai entendu ta prière, puis là, je t'envoie un petit peu d'eau. Là. Et ce filet d'eau-là qui est venu sur mon âme a fait un bien indescriptible. Et ça m'a montré que Dieu entendait celui qui crie. Ça m'a fortifié ma foi. Et le barrage n'a pas tout tombé tout d'un coup, mais graduellement, et le Seigneur m'a redonné la joie, la paix que j'avais en lui et que j'avais perdue. Donc, prions que le Seigneur brise les barrages qui nous empêchent de goûter à sa présence, à lui. Et un verset qui va dans le même sens que ce que je viens de vous dire. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34, verset 7, un verset qu'on connaît tous. Donc, quand un malheureux crie, c'est un peu ça, Dieu entend et il le sauve. Il ne fait pas juste entendre, puis c'est pas Dieu qui se sauve. Hein? Dieu l'entend et se sauve. Non, non. Il le sauve, la pauvre créature qui est en détresse. Terminer en conclusion, c'est tout simplement, est-ce que j'ai soif vraiment de connaître Jésus davantage? Et c'est ça qui était mon but ce matin, de créer chez vous une soif de connaître Jésus davantage, de ne jamais être satisfait de notre intimité avec lui et de toujours savoir que je peux le connaître davantage. Et un verset que j'ai cité la dernière fois, c'était le cœur de David. David disait, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Et David, où il était beaucoup dans le désert, donc une biche qui soupire après un courant d'eau, parce que c'est un endroit qui est aride, elle n'a pas d'eau, elle ne la voit pas et elle veut l'avoir, elle soupire. Donc, son cœur était comme ça. Il soupirait pour connaître Jésus davantage. Et peut-être, comme je disais, qu'on ne sent pas notre besoin de lui. Et mon but ce matin, c'est de créer une faim, une soif chez vous et de réaliser à quel point on a besoin de lui parce qu'il est plus que toute autre chose. Il est plus que d'autres choses. Il est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et je ne voulais pas mettre sur vos épaules un fardeau ce matin. Je voulais mettre simplement un désir, nous faire comprendre que c'est un privilège de connaître Dieu. Et j'ai peur qu'on se prive de ce privilège-là. J'ai peur de se priver de ce privilège-là, de dire, ah, sauvé, j'ai ma vie chrétienne, mes petites bébelles, mon petit ministère, je fais ça, puis je dis, correct. Donc, dites à Dieu, y aurait-tu moyen que je te connaisse plus? Et d'après ce que dit dans la Bible, d'après ce que vous venez d'entendre, c'est bon, ma prière que vous connaissiez Dieu davantage et que vous le cherchiez. Et Dieu se laisse trouver. Si vous voulez, on va terminer dans un mot de prière pendant que Fabien va s'avancer. Ô Seigneur, ta volonté pour nous, c'est qu'on te connaisse davantage, Seigneur. Il n'y a rien de plus grand que tu veux nous demander. Tu veux qu'on te cherche et qu'on aime, qu'on t'aime de tout notre cœur, notre force, notre pensée, de toute notre âme. On pourrait en parler longtemps de ce verset-là, Seigneur, tellement c'est profond, tellement c'est bon, Seigneur, que tu veuilles qu'on te trouve, qu'on t'aime à ce point-là. Seigneur, on sait que tu te laisses trouver. On te prie de mettre dans nos cœurs, Seigneur, ce fardeau, ce désir de te chercher davantage. Et fais, Seigneur, qu'on n'arrête pas notre recherche tant qu'on ne t'aura pas trouvé et par tous les moyens. Notre Dieu, nous sommes vraiment indignes de toi. Merci de nous avoir rendus dignes par Jésus. Et viens au secours de tes créatures, Seigneur. Et tu ne nous as pas laissé tomber. Tu nous as sauvés, tu nous as créés. Et Seigneur, tu ne laisses tomber aucune de tes brebis. Et Seigneur, tu ne t'écartes pas de celle qui crie à toi. Tu nous connais même par notre nom. Et lorsqu'on vient à toi, tu dis, ah oui, lui, je le connais. Je connais son nom. Et Seigneur, merci pour ton aide ce matin. Merci pour ta parole. Et on te prie, Seigneur, de continuer à travailler dans nos vies comme tu le fais. On prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.